Vous écoutez Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Olivier Vambézien, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on va aujourd'hui parler d'un sujet, les matériaux artificiels. Alors quand on dit matériaux artificiels, bon, c'est un univers particulier qu'on va dépeindre aujourd'hui, mais c'est surtout une recherche, une technologie qui se fait dans le cadre d'un institut qui s'appelle l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie. C'est une unité mixte, on peut peut-être préciser un petit peu comment elle fonctionne, avec qui et quels objectifs, bien sûr.
Alors, ce laboratoire est un laboratoire donc, qui est sur le campus de l'université et qui a plusieurs autorités de tutelle. Donc, il dépend à la fois du CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, et aussi donc, présente plusieurs tutelles universitaires. C'est pour ça qu'on appelle ça une unité mixte. Et ces différentes tutelles sont l'Université de Valenciennes, une école d'ingénieurs donc, de Lille, donc l'Institut supérieur d'électronique et de numérique, et l'Université de Lille, bien sûr, sur le site duquel donc, elle est implantée. Donc c'est une unité mixte qui regroupe à peu près maintenant 300 chercheurs ou 300 personnes donc, qui travaillent à plein temps, donc dans vraiment beaucoup de domaines très différents qui vont de la physique relativement fondamentale jusqu'aux applications donc, très très proches donc, de l'industrialisation des capteurs pour la médecine, pour la biologie, pour vraiment énormément de choses. Et avec comme point commun et comme point central l'électronique.
Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème, les matériaux artificiels, et aussi d'un livre qui vient de sortir sur les cristaux photoniques et métamatériaux, donc les photons qui sont invités aujourd'hui.
Les photons, et de manière plus générale, les photons de toute taille, c'est-à-dire les photons pour la lumière, mais aussi ce qu'on appelle les photons RF, c'est-à-dire tout simplement les ondes électromagnétiques. Donc, qui, par nature, sont de la même essence. Donc, toutes les ondes qu'on utilise pour les portables, pour les Wi-Fi, pour le Wi-Fi, etc., mais aussi les ondes lumineuses, travaillent sur les mêmes concepts. Et dans ce livre, l'idée, c'est d'essayer de montrer un petit peu comment on peut manipuler ces ondes à toute échelle avec un certain nombre de concepts communs finalement, quel que soit le type de l'onde, en utilisant justement donc des matériaux artificiels qu'on va peut-être définir ou qu'on peut peut-être définir de manière un peu plus précise.
Donc ces ondes, on les retrouve partout et j'allais dire qu'on les trouve de plus en plus, et il y en a de plus en plus dans notre univers quotidien.
Absolument, absolument. On est entouré, entouré d'ondes de toute taille, de toute espèce. On n'en a aucunement conscience, c'est vrai. On ne s'en rend pas compte. Peut-être certaines personnes qu'on dit sensibles à toutes ces ondes. Est-ce vraiment la cause? Bon, il y a pas mal de recherches qui se font là-dessus. Mais on en est entouré. Mais en même temps, on l'a toujours été. À partir du moment où la lumière fut, on a été entouré d'ondes.
Mais disons qu'on a tendance à s'en mettre tout autour de soi, s'en mettre même dans les poches avec des portables qu'on promène sans forcément savoir.
Qui sont toujours allumés, voilà, on nous suit.
Là, on l'a éteint le nôtre. Hein. Mais quand on l'a éteint, vraiment éteint ou il continue de fonctionner?
Bonne question. Certains vous diront qu'il y a encore un petit quelque chose qui fonctionne et qu'on peut toujours être localisé même s'il est éteint. Ouais. A priori, il vaut mieux enlever la batterie à ce moment-là, carrément.
Pas dormir à côté.
Ah, en général,
peut-être
oui.
Peut-être. Voilà, donc on a bien compris qu'il y a des enjeux de recherche parce qu'effectivement, toutes ces propriétés d'ondes et de photons et de matériaux, c'est quelque chose qui contribue au développement non seulement de la science, mais de la technologie et notamment des applications.
Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de regarder comment, à partir de concepts relativement communs mais peu ordinaires, on va pouvoir essayer de réaliser des applications toujours plus petites, toujours plus performantes, visant aussi éventuellement à la sécurité. Beaucoup de gens ont peur des ondes, notamment avec les téléphones portables. Si on téléphone trop et qu'on met le téléphone près de la tête, on risque d'avoir des tumeurs, etc., etc. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je pense que c'est les études qui nous montreront ça dans beaucoup d'années,
pour
malheureusement.
Pour certains, il sera peut-être trop tard.
Pour certains, il sera peut-être trop tard, mais enfin, une des parties des travaux...
Profiter quand même.
Voilà, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le danger, si on demande aux gens d'abandonner leur téléphone, etc., ils nous diront non. Je pense qu'il faut être clair. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de trouver des applications qui vont peut-être aider à éviter certains dangers potentiels donc de ces ondes.
Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une prudence naturelle, des principes de précaution qui seraient quand même bon de respecter un minimum. Et après il y a l'usage, alors soit professionnel, soit ludique, personnel on va dire. Le tout c'est peut-être un équilibre.
Oui, tout à fait. De toute façon, tout est toujours question de compromis et d'équilibre. Mais de notre côté, d'un point de vue recherche, l'idée c'est aussi de développer et de rendre ça le plus sûr possible. Et en faisant... par exemple, des études sur la manière dont on peut contrôler de manière très très précise, sur de très petites distances, ces fameuses ondes électromagnétiques. Et c'est un petit peu le but donc, de ces recherches sur les matériaux artificiels.
Ouais, donc, contrôler leur rayonnement, leur propagation, pas forcément les effets, puisque là, c'est d'autres sciences, il y a d'autres personnes qui se penchent sur les effets.
Ah, tout à fait, oui. Bon, là, il y a des études spécifiques qui sont menées dans différents laboratoires, et là, ça va aussi toucher au domaine du médical, donc qui sortent un petit peu, on va dire, du domaine de compétences de l'électronicien ou du physicien ou de l'opticien que je peux être. Mais en même temps, dans notre conception, on nous demande de plus en plus, nous, à réfléchir aussi à ces aspects, quand on va développer donc de nouvelles applications. Donc on essaie aussi d'avoir en tête, bien sûr, les problèmes potentiels que peuvent proposer donc ces nouvelles applications à très petite échelle, à échelle nanométrique, ou dans tous ces domaines où finalement on manipule les choses sans les voir. Et donc c'est ça aussi qui peut rendre un peu les gens méfiants, mais en même temps, c'est ce qui leur a permis d'avoir aujourd'hui tout ce qu'ils ont autour d'eux. Et qu'ils utilisent parfois, peut-être un peu trop d'ailleurs.
Voilà. Donc effectivement, les nanotechnologies, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais tout le monde, ou presque, les utilise au quotidien.
Voilà, effectivement. Dès que vous utilisez, on va dire, des outils que sont même un lecteur Blu-ray, mais là on va s'éloigner peut-être des matériaux artificiels, mais dès qu'on utilise donc les outils d'un lecteur Blu-ray, ben derrière, il y a toute une série donc, de travaux et d'applications donc, qui sont liés à la nanotechnologie. Parce qu'on va travailler sur des circuits électroniques à petite dimension. Dès qu'on va utiliser un smartphone ou dès qu'on va utiliser donc les appareils ultra performants qui sont magiques aujourd'hui, où tout bouge quand on effleure, etc. Bon, ben derrière, Il y a énormément de travaux donc, qui sont issus de la microélectronique il y a quelques années et maintenant de la nanoélectronique et de l'ensemble des nanotechnologies. Donc effectivement, elles sont déjà relativement partout et développées donc dans le monde d'aujourd'hui.
Si on prend un exemple très simple, par exemple les disques durs, il y a quelques années c'était énorme, maintenant on en a des tout petits avec des téraoctets.
Voilà, et puis on a des clés USB qu'on balade, ouais. et on manipule des quantités d'informations qui sont absolument monumentales. L'évolution s'est fait vraiment sur quelques années, très 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 rapidement. Et bien ça c'est dû au fait que les circuits électroniques qui sont inclus dans ces cartes, où on va stocker en fait toute cette information dans ces mémoires, et bien sont devenus de plus en plus petites. L'intégration du nombre de composants au millimètre carré donc, est devenue de plus en plus importante. Hein. On parle de milliards de dispositifs au millimètre carré hein, pour pouvoir stocker tout ça. Et donc, on a effectivement développé des dispositifs et des familles de transistors toujours de plus en plus petites, etc. Et la diminution continue encore. Pour un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'on atteigne certainement donc les limites de fabrication donc de la nanoélectronique.
On a toujours pensé qu'il y avait des limites, mais en fait, on avance toujours vers le plus petit.
Alors, il y a de plus en plus de questions. Donc là, c'est la roadmap qu'on définit donc, sur cette manière dont on va pouvoir toujours diminuer la taille des dispositifs, donne des solutions, on va dire, encore dans les laboratoires de recherche pour les 2-3 années à venir, donc pour, on va dire, pour la commercialisation et le développement industriel, pour un petit peu plus, hein, pour donc un certain nombre d'années. Mais malgré tout, là, les limites vont vraiment se faire ressentir dans les laboratoires d'ici quelques années. Il y a des problèmes qui deviennent insolubles et qui vont nécessiter de changer, bien évidemment, de manière de fabriquer les dispositifs. Alors, ça pose de gros problèmes, en fait. Et tout ça, c'est déduit, en fait, de gens donc à travailler là-dessus et qui se sont rendus compte que d'ici quelques années, il y a un croisement qui allait devenir terrible. C'est que la miniaturisation et le coût de revient de fabrication des dispositifs allaient croiser la courbe des bénéfices potentiels attendus. Donc là, effectivement, il y aura un problème parce que créer des chaînes de fabrication pour faire des dispositifs toujours plus petits et toujours plus performants, ça ne sera plus rentable. Donc ça veut dire que là, il y aura certainement une rupture technologique à faire et certainement quelques années où il y aura bien sûr des hésitations hein, et, sur la manière donc de continuer à produire. Alors ça a déjà un petit peu commencé aujourd'hui dans la mesure où dans certains domaines on ne cherche plus forcément aujourd'hui à réduire et à faire des dispositifs de plus en plus petits. Mais on cherche éventuellement à construire des architectures donc de composants de plus en plus compliqués. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de cartes. Donc ça veut dire qu'en gros, on a des dispositifs qui sont à deux dimensions pour faire les circuits électroniques. Comme on va plus savoir faire beaucoup plus petit dans ces deux dimensions, on va essayer de les empiler, d'utiliser la troisième dimension de l'espace. Et puis on va essayer de faire des architectures de plus en plus compliquées et éventuellement d'utiliser la lumière pour communiquer entre les différents étages donc de ces circuits électroniques. Donc ça, c'est un domaine qui est en plein développement et qui donnera peut-être des solutions pour toujours créer des produits plus performants.
Alors c'est vrai qu'on avait pendant une longue période vu des progrès sur des appareils précis. Maintenant, en fait, tout se concentre autour d'un ou quelques appareils que les gens ont dans leur poche ou dans leur valise. Et avec tout ça, on met le maximum de choses dans un minimum d'appareils. C'est une concentration qui peut avoir aussi ses problèmes et ses dangers, mais voilà. Donc, par exemple, un gros ordinateur maintenant, même pour écouter la radio, les gens ont commencé à privilégier d'autres technologies.
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que la puissance des ordinateurs fait que maintenant, pour l'usage quotidien, on n'a plus besoin de grosses machines. Des petites machines suffisent largement. Alors, malgré tout, de temps en temps, on a besoin d'un écran pour bien voir, on a besoin de choses un petit peu plus grandes. Mais par contre, quand on va peut-être un peu plus dans un labo de recherche et qu'on regarde un petit peu quels sont les ordinateurs qu'on peut vendre et qu'on peut acheter aujourd'hui pour faire du calcul, finalement on se rend compte que quelque part, ils ne deviennent pas plus petits. Même s'ils sont de plus en plus performants et que les circuits sont de plus en plus petits, en fait il faut mettre autour de plus en plus de systèmes pour refroidir les cartes électroniques pour éviter donc la surchauffe et que ça brûle. Donc finalement, les appareils ne deviennent pas plus petits. Donc on a une espèce de paradoxe là. Donc la miniaturisation des circuits électroniques continue, mais en même temps, ça n'implique pas qu'on va toujours faire des choses toujours plus petites.
Olivier Van Bezien, vous parliez tout à l'heure de cette recherche, en gros, qui se fait peut-être à 3 ans des applications qui se vendent, les nouveautés annoncées dans les salons, dans les high-tech, c'est ça ?
Alors, la recherche à laquelle je m'intéresse, elle est quand même à plus long terme.
Oui.
C'est-à-dire que quand on va parler éventuellement des matériaux artificiels, où on va essayer donc de contrôler la propagation de la lumière à des petites échelles ou des choses comme ça, là, pour l'instant, le domaine applicatif est effleuré. On a des idées potentielles de savoir où ça va se diriger pour ce domaine que je connais. Par contre, tout ce qu'on vient de discuter là depuis quelques minutes, donc là, la main, on va dire, est un petit peu hors des laboratoires de recherche universitaire ou de l'unité mixte dans laquelle je peux me trouver. Là, on est plus vers la pré-industrialisation, donc cette recherche-là est déjà dans l'industrie, d'accord ? Alors pas forcément en France, assez peu en France dans le domaine de la microélectronique, mais après, les sujets sur lesquels on travaille ou que j'ai pu présenter donc dans cet ouvrage, c'est vraiment pour du plus long terme. D'accord, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur un certain nombre de concepts qui sont très, 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 très intrigants. Pour les gens qui ont une culture scientifique, on va dire de base, on arrive à avoir des effets qui sont très, très étranges, liés aux concepts qu'on a pu évoquer déjà un petit peu dans les médias sur les concepts d'invisibilité ou de réfraction négative, où la lumière ne va pas dans la direction naturelle où elle devrait aller parce qu'on a transformé un petit peu les propriétés du matériau. Donc là, on essaie de voir comment ces effets vont pouvoir s'appliquer à des dispositifs nouveaux et originaux qui sortent un petit peu, on va dire, du domaine industriel actuel tel qu'on a pu en parler il y a quelques minutes. Et là, ce sera peut-être effectivement des objets qui provoqueront une rupture et qui provoqueront une rupture aussi bien dans le domaine de l'électronique très haute fréquence ou dans le domaine de l'électronique appliquée au médical ou au biomédical, dans les systèmes d'imagerie et un petit peu toutes ces notions-là en fait. Mais là, dire qu'il va y avoir un objet précis sur la table dans 2 ans utilisant un petit peu ces matériaux un petit peu étranges qu'on est en train de fabriquer, non. Je pense que c'est un petit peu trop tôt et il faudra encore attendre, je pense, minimum, on va dire, une dizaine d'années. Donc, c'est du moyen long terme. Alors ça, c'est une grande discussion qu'on peut avoir aujourd'hui aussi. Mais c'est une discussion qui dépasse, on va dire, le monde de la recherche sur ce que c'est le court terme, le moyen terme et le long terme. Dans une société où aujourd'hui, on vit tout à court terme, c'est très difficile aussi, parfois, de proposer et d'essayer de continuer à chercher sur des choses à un peu plus long terme.
Alors c'est vrai qu'on a bien compris les enjeux de ces nouvelles technologies pour des entreprises qui travaillent aussi essentiellement sur le grand public pour vendre. Là, on peut dire que les générations se succèdent à un rythme effréné.
Tout à fait, oui.
Et puis il y a cette recherche plus longue qui est peut-être aussi celle qui nécessite le plus les investissements de l'État plutôt que les investissements des entreprises qui, elles, ont des vues à court terme et de concurrence.
Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, là, ça fait partie donc des grandes discussions qui peuvent exister aujourd'hui sur la manière dont doivent fonctionner les laboratoires de recherche, aussi bien ceux qui sont considérés comme de la physique fondamentale, mais aussi ceux qui sont plus considérés comme de la physique appliquée ou vraiment faisant partie des sciences de l'ingénieur, un peu comme celle à laquelle j'appartiens. Donc, et là, c'est vrai que on est dans une situation aujourd'hui où c'est relativement difficile, même dans un laboratoire extrêmement bien doté en équipement que peut être l'IEMN ici sur Minobdask, de financer parfois donc des recherches sur des sujets qui sont, on va dire, trop amont pour l'industrie, donc un peu trop en avance, enfin pas encore prêt à passer aux produits industriels, mais aussi quelque part un peu trop appliquée pour, on va dire, un financement de recherche fondamentale type, comme peuvent l'avoir certains grands laboratoires de la région parisienne qui nous sortent, comme récemment, des prix Nobel ou des choses comme ça, où là, vraiment, c'est une recherche, on va dire, beaucoup plus fondamentale qu'est la nôtre. Ici, c'est un sujet de recherche qui se situe un petit peu à la marge entre les deux, et toute la difficulté est justement de pouvoir mener donc ces actions. Et bien évidemment, ces actions, on ne les mène pas tout seul. Ce n'est pas un seul laboratoire comme l'IEMN qui peut partir là-dessus. Et on a vraiment des collaborations avec l'ensemble de nos partenaires, déjà français pour commencer, et puis bien sûr après à plus grande échelle européenne et bien sûr internationale. Mais là, on rentre aussi après dans un système de compétition, mais qu'une compétition académique, donc qui est un petit peu différente, hein, mais qui existe aussi et qui parfois rend difficile l'émergence d'un certain nombre de sujets. Mais tout notre travail, et non seulement de faire cette recherche, mais de trouver aussi les moyens de la financer. Et principalement, ces sujets de recherche-là sont financés donc, par les agences de l'État. Ces agences de l'État, c'est par exemple donc, l'ANR, hein, qui est l'Agence nationale de la recherche, donc, qui finance les équipes de recherche par projet. Mais il y a aussi, et beaucoup de gens le déplorent aujourd'hui, de moins en moins les fonds récurrents du CNRS qui permettent à certaines équipes de mettre en route des sujets de recherche qui ensuite pourront être financés par ailleurs. Et puis on essaie aussi, bien sûr, de trouver des financements européens, mais là aussi, la bataille est extrêmement rude avec donc les laboratoires des pays nous entourent.
Combien il existe de laboratoires ou d'entités comme cette unité mixte IEMN dans la région ?
Alors, dans la région, sur le campus de Lille, on va dire que... alors, je ne sais pas quels sont exactement les statuts de ces laboratoires, s'ils sont des UMR ou pas, mais donc dans le domaine on va dire, de tout ce qui va tourner autour des sciences exactes et sciences de l'ingénieur, parce qu'après, il y a d'autres domaines, hein, bien évidemment, je dirais que sur le campus, il y a vraiment trois grands laboratoires, hein, qui sont... puis après, il y en a d'autres, mais qui sont des regroupements de ces différents laboratoires. Bon, il y a l'IEMN à laquelle j'appartiens. Il y a le FLAM, qui est le laboratoire, on va dire, de physique, proprement dit. Il y a le LIFL, donc, qui est le laboratoire d'informatique de Lille. Et après, bon, il y a d'autres laboratoires de taille un petit peu plus modeste, comme le LAGIS, le L2EP, donc, qui sont des laboratoires un petit peu... Mais les trois très gros laboratoires, donc, c'est principalement l'IEMN, le FLAM et donc le LIFL. Et certains de ces laboratoires, après, se regroupent par équipe ou se regroupent par thématique avec, on va dire, des architectures qui sont des laboratoires aussi, mais avec des statuts un petit peu différents. Je pense à l'IRSICA, par exemple, qui regroupe pas mal d'équipes des trois autres laboratoires, hein, de physique, d'électronique et d'informatique, ou l'IRI, donc, qui est l'Institut de recherche interdisciplinaire, qui regroupe aussi donc, des électroniciens, mais aussi des gens qui viennent un petit peu de la biologie, parce que c'est aussi des thèmes qui émergent un petit peu. Et puis, si beaucoup de gens nous écoutent, ils m'en voudront si j'oubliais de dire qu'il y a aussi, donc, sur le campus de Lille, au niveau de l'informatique, bien sûr, une antenne de l'INRIA, donc, qui est assez importante, mais qui touche plus, bien sûr, autour de ce qui est informatique et traitement de l'information.
Est-ce que la communauté européenne vous engage à travailler ensemble avec d'autres pays européens et finance éventuellement des recherches qui seraient communes à plusieurs laboratoires de plusieurs régions de l'Europe ?
Alors, l'essence même des projets européens est d'essayer de faire travailler donc, effectivement des différents laboratoires de différents pays européens ensemble. Et... typiquement, quand un projet européen est déposé, qui va regrouper et qui va faire travailler 5, 6, 7, voire un petit peu plus laboratoires de différents pays, d'Angleterre, Allemagne, on va aussi en Pologne, Espagne, Italie, etc. En général, ça se fait avec, on va dire, un laboratoire représentant chaque pays. D'accord. Et un certain nombre de projets existent, donc sur un certain nombre de thématiques, hein, très très variées. Et c'est aussi parfois une petite difficulté, parce que quand on fait partie d'un laboratoire, d'un projet européen, ça devient relativement difficile d'intégrer dans ce projet d'autres collègues français travaillant plus ou moins sur les mêmes sujets, avec qui on est éventuellement impliqué dans des projets français ou des projets financés par l'ANR, par exemple. Et donc, il y a une espèce de concurrence qui se fait et qui est un petit peu dommage. Mais en même temps, bien évidemment, un projet européen se doit d'être européen, et on ne peut pas faire un projet européen en mettant 5 laboratoires du même pays. À chaque fois, ça deviendrait des machines complètement ingérables, bien évidemment.
Olivier Bombézien, on peut présenter le livre qui vient de sortir et dire à qui il s'adresse et où est-ce qu'on le trouve. Est-ce qu'il est consultable?
Alors le livre, oui bien sûr, bon, on peut l'acheter. Hein. Donc le livre existe sous deux formes. Donc il existe en version française, donc il a été publié aux éditions Hermès. Donc on peut le trouver dans les librairies scientifiques.
Sous quel titre?
Alors il s'appelle « Matériaux artificiels ». Donc, et puis il y a un petit sous-titre qui s'appelle « Ingénierie de dispersion donc, des micro-ondes à l'optique ». Donc pour montrer un petit peu l'étendue des applications. Donc celui-là est donc il est publié par Hermès et donc il est disponible aux éditions à la librairie Lavoisier par exemple. Hein. Et puis bon, je pense que un certain nombre de bibliothèques universitaires sont abonnées à ces collections-là. Hein, donc au niveau de Hermès et donc il doit, je l'espère, pouvoir devenir consultable relativement rapidement. Et il existe aussi donc sous une forme anglaise. Donc il a été traduit directement donc, par les éditions Wiley, où il s'appelle donc Artificial Materials, donc la traduction directe, dans la mesure où en fait Hermès et Wiley sont deux maisons d'édition, enfin Wiley a racheté les éditions Hermès, donc c'est la même maison d'édition en fait qui fait ces deux choses-là. Donc à qui le livre s'adresse? Il s'adresse, on va dire, à toute personne curieuse, qui possède un bagage scientifique, on va dire, minimal de compréhension d'un certain nombre de problèmes d'optique et d'électromagnétisme, et donc qui devient, on va dire, très très vite accessible pour des étudiants qui seront, on va dire, en master première ou en master deuxième année, puis poursuivant après vers un doctorat ou une chose comme ça. Mais malgré tout, un certain nombre de thèmes sont, on va dire aussi, je pense, abordables par des étudiants, on va dire, de licence. D'accord ? Il peut être utilisé éventuellement pour des projets, comme ils doivent en faire. J'ai été contacté l'année dernière par un élève de classe prépa, par exemple, qui voulait travailler sur les métamatériaux. Bon, bah, je pense qu'un certain nombre de chapitres que je lui ai envoyés, lui, les ont aidés. Donc à établir leur projet. Donc, mais malgré tout, pour saisir l'ensemble des choses, et le spectre est relativement large, bon, il faut quand même on va dire un bagage scientifique en électromagnétisme et en optique minimal. Et après, bah, il s'intéresse à toute personne, on va dire, de culture scientifique un petit peu curieuse, qui veut découvrir un petit peu ce domaine-là. Il a été volontairement fait de manière relativement didactique, sans multiplicité d'équations et de choses comme ça, avec beaucoup d'illustrations pour montrer les différents effets, tout ce que l'on peut faire avec la réfraction négative, les câbles d'invisibilité, etc., etc.
Bien, monsieur Olivier Bombézien, je vous remercie. Bonne continuation dans votre recherche.
Merci beaucoup.